C'est au mois de mai, à la demande expresse de M. Ward, inquiet de l'obsession de son fils à propos de ce Joseph Curwen, au sujet duquel il avait glané à peine quelques fragments d'informations, que le docteur Willett eut une conversation avec le jeune homme. Elle ne fut guère concluante car, comme le remarqua le médecin, Charles était totalement maître de lui-même et ne laissait rien paraître des affaires importantes qu'il perturbait. Mais à tout le moins, elle obligea le jeune homme à fournir un semblant d'explication rationnelle à son attitude extravagante. Pâle, impassible, peu enclin à laisser entrevoir ses émotions, Ward affirmait être tout à fait disposé à parler de ses recherches, sans pour autant en révéler le but ultime. Il déclara donc que les manuscrits de son aïeul contenaient des trésors scientifiques aujourd'hui perdus, pour la plupart chiffrés, d'une étendue inimaginable, comparable peut-être aux travaux de Roger Bacon, quoique les surpassant probablement. Ils étaient cependant sans valeur, à moins de pouvoir les rapprocher de connaissances aujourd'hui obsolètes, tant et si bien que leur présentation prématurée à des équipes scientifiques modernes leur ôterait toute crédibilité. Pour prendre leur juste place dans la pensée humaine, il fallait qu'ils fussent joints à d'anciennes découvertes par quelqu'un qui les connaissait et les pratiquait, et c'est à cette corrélation que Ward consacrait son temps et son énergie. Il cherchait à acquérir le plus rapidement possible ce savoir ancien et oublié que seul un exégète fidèle des travaux de Curwen pouvait espérer posséder, et il comptait bien, dans un avenir proche, pouvoir communiquer ses propres résultats dont il promettait qu'ils seraient d'un intérêt formidable pour l'humanité et la science. Même Einstein, ajouta-t-il, ne pourrait révolutionner ainsi la pensée. À propos de ses expéditions dans les cimetières qu'il reconnut sans réticence, mais dont il ne livra pas le degré d'avancement, il affirma qu'il avait de bonnes raisons de croire que la tombe mutilée de Joseph Curwen portait certains symboles mystiques, gravés suivant ses dernières volontés, et ignorés par les iconoclastes stupides qui avaient effacé son nom, symbole absolument essentiel pour percer son système de cryptage. Quand le docteur Willett demanda à examiner les fameux documents d'Olnekort, Ward se montra réticent et tenta de faire diversion en l'entretenant du feuillet de Chinson et des diagrammes et formules d'Horn. Finalement, il accepta de lui montrer certains titres, journal et notes, et celui rempli de formules, à celui qui viendra après moi, et de lui laisser voir quelques pages au caractère illisible. Il ouvrait également le carnet à une page insignifiante soigneusement choisie et lui laissa examiner l'écriture de Curwen. Le docteur remarqua sa calligraphie alambiquée et son aspect général tout à fait caractéristique du XVIIe siècle, chose curieuse si l'on considère que l'auteur était un homme du XVIIIe, mais il acquit la conviction que le tout était authentique. Le texte était très anodin et Willett n'en retint qu'une partie. Mercredi 16 octobre 1754. Ma goélette, le Wakeful, a accosté ce jour venant de Londres avec 20 nouveaux marins, des Indiens, des Espagnols de la Martinique et 2 Hollandais de Suriname. Les Hollandais menacent de déserter pour avoir entendu quelques méchancetés sur mes expéditions, mais je veillerai à les en dissuader. Pour M. Nike Dexter de Bay et Livre, 20 pièces de camelot, 100 pièces de camelotine, 20 pièces de molleton bleu, 100 pièces de chalon, 50 pièces de calmande, 300 pièces de chenzoï et de hum-hum. Pour M. Green de l'éléphant, 50 bouilloires d'un gallon, 20 bassinoires, 15 poissonnières, 10 paires de pinces. Pour M. Périgot, un jeu de poinçons. Pour M. Nightingale, 50 rames de papier à imprimer quarto. J'ai récité le Sabaoth 3 fois cette nuit, mais rien n'est apparu. H de Transylvanie devra m'en dire davantage, bien qu'il soit difficile à joindre, car il est fort étrange qu'il ne pût m'expliquer ce qu'il fait si bien depuis 300 ans. Simon ne m'a point écrit depuis 5 semaines et j'attends de ses nouvelles. Quand le docteur Willett voulut tourner la page, Ward, qui le surveillait, lui arracha le journal des mains. Le docteur eut à peine le temps de déchiffrer 2 phrases qui lui restèrent gravées dans la mémoire. Un verset du Liber Damnatus a été récité au cours de 5 veilles d'invention de Sainte-Croix et de 4 veilles de Toussaint, et j'espère que la chose se développera hors des sphères. Elle attirera celui qui doit venir, si je peux faire en sorte qu'il soit, celui qui pensera aux choses du passé et pour qui je dois tenir prêt les selles ou de quoi les préparer. Willett n'en lut pas davantage, mais ce coup d'œil lui suffit pour ressentir une impression d'effroi en regardant à nouveau le portrait de Kerven qui, affable, trônait au-dessus de la cheminée. Il s'imagina même un moment que le portrait observait et même suivait des yeux le jeune Charles lorsque celui-ci se déplaçait dans le bureau. Mais bien vite, en bon scientifique qu'il était, il admit que ce n'était que fantasme de sa part. Avant de quitter la pièce, il s'arrêta devant le portrait pour l'examiner. Une fois encore, il s'émerveilla de la ressemblance avec Charles et mémorisa chaque détail de ce visage mystérieux et pâle jusqu'à une petite cicatrice située au-dessus de l'œil droit. Décidément, Cosmo Alexander était bien un peintre de cette Écosse qui nous donna Raeburn et un maître digne de son illustre élève Gilbert Stuart. Rassuré par le docteur sur la santé mentale de Charles et convaincu qu'il s'était engagé dans des recherches étranges qui, après tout, pourraient s'avérer importantes, les Ward se montrèrent plus indulgents qu'ils ne l'eussent été en d'autres temps lorsqu'en juin le jeune homme refusa catégoriquement d'aller à l'université. Il avait, disait-il, des travaux d'une importance vitale à mener et souhaitait, dès l'année suivante, partir à l'étranger où il pourrait poursuivre ses recherches, chose impossible en Amérique. Son fils n'avait que 18 ans et naturellement M. Ward refusa de céder à ce nouveau caprice. En revanche, il se laissa fléchir sur la question de l'université, si bien qu'après avoir obtenu des notes très moyennes à l'examen final du lycée Moses Brown, Charles passa les 3 années suivantes à étudier les sciences occultes et à explorer les cimetières. Il passait pour un excentrique et délaissait de plus en plus sa famille et ses amis, se consacrant exclusivement à ses recherches, interrompues seulement pour quelques voyages dans les villes avoisinantes afin de consulter d'obscures archives. Un jour, il s'aventura plus au sud pour rendre visite à un étrange mulâtre qui vivait dans les marais et dont on avait parlé dans les journaux. Une autre fois, il rechercha un petit village des Adirondacks d'où des rumeurs d'étranges pratiques étaient parvenues jusqu'à lui. Cependant, ses parents tenaient bon pour le voyage vers l'ancien monde auquel il n'avait pas renoncé. Arrivé à sa majorité en avril 23, il fit un petit héritage provenant de son grand-père maternel qui lui permit de partir enfin pour l'Europe. À ses parents, il ne dit rien de son itinéraire, sinon que ses recherches le mèneraient dans plusieurs pays, mais il leur promit de leur écrire régulièrement et longuement. Voyant qu'il était impossible de le détourner de ce projet, ils abandonnèrent toute opposition et l'aidèrent de leur mieux, si bien qu'en juin, le jeune homme s'embarqua pour Liverpool, avec la bénédiction de son père et de sa mère qui l'accompagnèrent à Boston, puis de là jusqu'au quai de la White Star à Charlestown. Des lettres leur parvinrent rapidement pour leur dire qu'il était bien arrivé, qu'il séjournait à Londres dans un bel appartement de Great Russell Street, où il se proposait de rester en évitant néanmoins les amis de la famille jusqu'à ce qu'il ait épuisé toutes les ressources du British Museum. Sur sa vie quotidienne, il restait très discret, sans doute parce qu'il n'y avait pas grand-chose à raconter. Il consacrait tout son temps à l'étude et à des expériences dans un petit laboratoire qu'il avait improvisé dans une des chambres. Il ne dit rien d'éventuelles promenades dans cette superbe ville avec ses dômes et ses clochers, ses ruelles tordues, ses vues tantôt surprenantes, tantôt magnifiques, ce que ses parents prirent pour indice de son implication obsessionnelle et complète dans ses nouvelles recherches. En juin 1924, un petit mot les informa de son départ pour Paris, où il s'était déjà brièvement rendu en avion afin de consulter les archives de la Bibliothèque nationale. Au cours des 3 mois qui suivirent, il n'envoya que des cartes postales mentionnant une adresse rue Saint-Jacques. Il fit quelques allusions à la bibliothèque d'un collectionneur privé qui possédait des manuscrits rarissimes. Il évitait tout contact avec des connaissances, et jamais un touriste ne se souvint de l'avoir rencontré. Puis ce fut le silence, jusqu'à ce qu'en octobre, les Ward reçoivent une carte postale de Prague. Charles séjournait dans cette vieille ville où il devait rencontrer un homme très âgé, ultime détenteur d'obscurs secrets médiévaux. Il leur donna une adresse dans la Neustadt où il comptait rester jusqu'en janvier. À Après Prague, il expédia plusieurs cartes de Vienne. Il y était en transit vers les pays balkaniques, où un de ses correspondants, adepte des sciences occultes, l'avait invité. La carte suivante venait de Klausenburg, en Transylvanie. Il se rendait chez le baron Ferenczi, dont les terres sont situées dans la montagne à l'est de Racus. On pouvait lui écrire aux soins du baron. Une carte arriva de Racus la semaine suivante, précisant que la voiture de son hôte était venue le chercher au village pour le conduire dans les montagnes. Ce fut le dernier message pendant un long temps. Il ne répondit pas aux nombreux courriers de ses parents, jusqu'en mai, quand il se décida à écrire à sa mère pour la dissuader de venir le voir à Paris, Londres ou Rome, en profitant d'un voyage en Europe que le couple planifiait. Ses recherches étaient telles qu'il ne pouvait quitter le château du baron en ce moment, qui malheureusement était un lieu peu propice aux visites. Il était situé sur un nid d'aigle, entouré d'une forêt épaisse, et si soigneusement évité par les habitants un peu frustes de la région, que même les gens plus évolués n'arrivaient pas à s'y sentir à l'aise. Sans compter que le baron avait des façons peu en rapport avec celles de la gentry de Nouvelle-Angleterre. Son aspect et ses manières étaient un peu surprenantes et il semblait si âgé que cela en devenait gênant. « Il valait mieux, disait Charles, que ses parents attendent son retour à Providence, retour qui d'ailleurs ne saurait plus tarder à présent. » Il fallut cependant attendre mai 1926 et quelques cartes postales pour que le jeune érudit accoste dans le port de New York à bord de l'Homeric, avant de parcourir en autocar les 180 miles qui séparent New York de Providence. Pendant le trajet, il s'imprégna avec délice des vertes collines entrecoupées de vergers en fleurs et de villages aux clochers blancs si caractéristiques du Connecticut. Pour la première fois depuis 4 années, il savourait à nouveau sa chère Nouvelle-Angleterre. Quand le car traversa le Pawcatuck et pénétra dans Rhode Island par une belle après-midi ensoleillée, son cœur battit plus fort. En entrant dans Providence, suivant Réservoir puis Elmwood Avenue, il eut presque le souffle coupé malgré tous les mythes et légendes prohibées dans lesquels il avait trempé. Au croisement de Broad, Wabasset et Empire Street, il retrouva, doré par le soleil couchant, les clochers et les dômes de la vieille ville qu'il avait précieusement gardée en mémoire. Comme le véhicule ralentissait en arrivant au terminal de Biltmore, il eut une impression de flottement en revoyant sur l'autre rive le dôme vert de la colline parsemé de toits et la gigantesque flèche de l'église baptiste. Providence, chère et vieille cité, c'était elle et la force étrange de sa longue histoire qui l'avait façonnée et qui lui avait fait entrevoir des secrets dont nul prophète ne pourrait définir les limites. Les mystères, merveilleux ou terrible, dont il s'était instruit pendant tous ses voyages, sommeillait dans ses murs. Le taxi fit le tour de Post Office Square, d'où il pouvait voir le fleuve, le vieux marché couvert et la pointe de la baie vers laquelle il se dirigeait, avant d'attaquer Waterman Street jusqu'à l'église de la science chrétienne dont le vaste dôme se reflétait dans le soleil couchant. Ensuite, il restait à parcourir 8 pâtés de maisons le long des plus anciennes demeures et des allées pavées de son enfance où il avait l'habitude de courir pour atteindre l'ancienne petite ferme blanche sur la droite et arriver enfin devant le porche classique et la façade imposante de la grande maison de briques où il était né. Charles Ward était de retour chez lui.